formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et des portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Moi, Action Justice, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre rendez-vous mensuel. Portant sur les nombreuses injustices générées par le système de protection de la jeunesse au Québec. Mon nom est Gilles Boivin, étant l'un des membres fondateurs et président de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, communément appelée CFDPJ, il me fait toujours plaisir d'être avec vous sur Radio Centre-Ville 102,3 et de seconder ou remplacer le dernier vendredi du mois, M. Hadj Zitouni, dans l'animation de différents sujets touchant notre thématique. Avec moi pour m'accompagner, M. Jan Stoll, aussi membre de la Société d'aide et d'information victimes de DPJ et notre habituelle référence historico-politico-légale en protection de la jeunesse. Bonjour, M. Stoll.
Bonjour, Gilles. Bonjour, chers auditeurs.
Comment allez-vous ce matin?
Ça va bien.
Ouais, malgré le temps gris et
malgré
les sévices.
Malgré les intempéries.
Oui. Nous avons aussi la chance, une fois de plus, au cours de l'émission, d'avoir un entretien téléphonique avec Mme Luce Bouchard, présidente de l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec. Il serait intéressant, évidemment, d'entendre son opinion et d'obtenir son éclairage expert sur notre sujet du jour, qui est le placement en famille d'accueil. La solution à tous les maux? pas certain, hein? J'ai bien hâte d'aborder le sujet. Mais auparavant, j'aimerais souligner que si vous désirez, comme toujours, nous envoyer vos commentaires, nous faire part de vos questions ou obtenir de l'information concernant une problématique que vous pourriez vivre, vous pouvez le faire en nous écrivant à DPJ Radio Centre-Ville, donc DPJ Radio Centre-Ville d'un seul trait, à commercial hotmail.com ou par la poste si vous le désirez à SAVDPJ, c'est-à-dire SAIVDPJ, SAIVDPJ, caisse postale 193-193, Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, avec le code postal J8C3A. Alors, il ne faut pas vous gêner. Nous sommes toujours prêts à recevoir vos demandes et à y répondre. Maintenant, avant d'entendre le point de vue de chacun, j'aimerais aborder le contenu d'un article paru dans le Journal de Montréal du 14 avril 2015. Alors, comme vous le savez, on reprend toujours à la fin du mois des éléments d'actualité et cet article-là, paru dans le Journal de Montréal du 14 avril 2015, titrait « Enfants malades. Ses parents déplorent que la seule solution d'aide est de placer Alexia en famille d'accueil. Des parents dénoncent le manque d'aide pour leur fille qui vit dans la douleur extrême. » Un article d'Éloïse Archambault. Alors, on peut y lire qu'à bout de souffle, pour leur fillette de 7 ans, atteinte d'une maladie hyper rare qui lui cause de la douleur extrême, des parents déplorent qu'on leur ait offert de placer Alexia en famille d'accueil. Et de dire, les parents, on a besoin d'aide, mais on veut s'occuper de notre enfant, lance du fond du cœur la mère Catherine Garreau. Alors, la famille d'accueil serait payée pour s'en occuper, mais nous, on ne peut pas avoir de soutien. C'est ridicule. On ajoute, on était tellement insultés, dit Mme Garreau. Je ne peux pas croire qu'on nous propose ça. On a ouvert notre cœur, on est allé chercher de l'aide, et on nous offre de placer notre enfant. Pour la mère, le système ne fait aucun sens. Surtout qu'une famille d'accueil aurait droit, elle, à de l'aide à domicile et à du répit pour Alexia. C'est cette aide-là qu'on veut. La famille, c'est le cœur de la vie d'Alexia. Madame Nathalie Nolin, porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, le CISSS, ajoute... Quant au financement des parents versus la famille d'accueil, ben, que l'aide financière ne fait pas partie du mandat du CISSS. Or, quelle belle analogie on peut faire ici, là, avec les services offerts par la DPJ. Hein? Qu'en pensez-vous, Yann?
C'est dans l'ensemble de la politique de la protection de la jeunesse et les pratiques de DPJ, ouais, et centres d'accueil. Évidemment, l'État... Son état naturel, c'est l'insensibilité. L'État n'est pas un être sensible, pourvu d'empathie, pourvu de sensibilité. C'est à la base, on l'a dénoncé plusieurs fois, cette politique est erronée sur le fond que l'État ne peut pas jouer à la mère, l'État ne peut pas jouer au père. Dans ce cas-ci, spécifiquement, on peut voir les prétendus experts de l'État, du système qui est en marche, ne conçoivent pas qu'ils proposent d'ajouter aux douleurs de la petite fille de 9 ans une autre douleur de séparation de ses parents.
Absolument.
Une enfant malade comme ça a besoin de soutien. Elle est déjà souffrante suffisamment. Mais pour ces intervenants, ces prétendus experts du ministère de la Santé et des Services sociaux, s'en foutent carrément.
Ouais. Comme si l'élément humain n'avait que très peu d'importance. Hein?
N'a aucune importance.
C'est la structure, le service point, l'élément humain, on met ça de côté. Hein?
Alors, en réalité, on peut constater que l'état d'élect des personnes dont la priorité consiste manifestement à étendre leur pouvoir et leur budget et non à s'occuper des besoins vitaux des enfants.
C'est absolument.
Alors c'est essentiellement ça ce qu'on continue à dénoncer.
Voyons ce qu'en pense Mme Luce Bouchard de l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec. Mme Bouchard, êtes-vous avec nous?
Oui, bonjour.
Bonjour Mme Bouchard, bienvenue une fois de plus à l'émission.
Merci.
Vous allez bien?
Ah oui, assez bien.
Oui, c'est gris dans votre coin de pays?
Très gris, alors il pleut même.
Vous êtes dans Beauce-Appalaches, hein?
Non, dans le Bas-Saint-Laurent.
Bas-Saint-Laurent, ah, c'est ça. Écoutez, Mme Bouchard, vous m'avez entendu. Comment réagissez-vous à cet article de journal?
Pour moi, ça me scandalise, mais ça ne m'étonne pas.
Non.
Parce que si je regarde, moi, je suis toujours sur la loi de la protection de la jeunesse, là, qui est un peu, je veux dire, à la dérive à ce niveau-là. Parce que lorsqu'on enlève un enfant, il faut avoir des raisons très graves. Mais là, on évoque continuellement, par exemple, semble-t-il qu'on a eu un signalement et avant d'évaluer le signalement et de prendre des informations, on débarque chez les gens et une chose qu'on a en tête, c'est de retirer l'enfant sans savoir vraiment les raisons, si les raisons sont valables pour le faire, parce que vous savez que le traumatisme pour un enfant d'être enlevé de ses parents, de la garde de ses parents, les représentants de l'État partent avec l'enfant, alors que l'enfant, j'ai eu des témoignages de personnes, l'enfant était en crise, il voulait demeurer avec ses parents et tout, mais ça on dirait que l'État n'a pas de cœur. Le cœur n'y est pas. On prend pas le temps, on sait pas le mal qu'on peut faire à l'enfant, c'est-à-dire on le sait, mais on l'ignore. On essaie de fonctionner sans sentiment et sans, alors il faut fonctionner sans sentiment lorsqu'on enlève un enfant.
C'est ça. Comme si on fonctionne avec la structure, avec le système.
Mais c'est propre à l'État, n'est-ce pas? L'État n'est pas un être humain, un être sensible. C'est
non
une machine.
La loi,
c'est une machine.
Est très belle. Donc, c'est bien écrit, mais ça n'est pas absolument pas respecté. Le Québec a signé les conventions. La convention relative aux droits de l'enfant, là. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant et préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales. Alors, c'est une entente que la province du Québec a signée, le Canada également, et ça n'a absolument aucun poids au niveau des décisions qui se prennent. Mm-hmm. Parce que, même cette convention-là défend à l'État de couper les liens entre l'enfant, les enfants et leurs parents et ou leur famille, mais c'est pas du tout ce qu'on... M. Boivin, vous êtes en mesure de le dire.
Oui.
Les liens sont carrément coupés, souvent de façon arbitraire.
Très fréquemment, pour ne pas dire dans la majorité des cas.
Mais presque dans la majorité des cas. Alors,
pas seulement arbitraire, mais drastique.
Hypocritement. Est-ce que le gouvernement est sérieux dans sa loi alors qu'il sait très bien que la loi n'est pas respectée? Les articles de loi sont là. Alors, c'est comme si lorsque c'est inscrit 100 km ou 110, vous faites du 150, puis la loi, c'est pas important pour vous. Alors, vous êtes sanctionné. Et là, ces personnes-là sont représentants de l'État et aucune sanction, aucune vérification n'est faite par le vérificateur général. Alors, l'argent, elle va où? On fait quoi avec l'argent? Alors, l'argent que l'État leur confie. Et moi, en tout cas, je pense que les lois doivent être revisées absolument, parce qu'on peut pas continuer à laisser l'État créer des orphelins tous les jours sans que les gens ne réagissent pas.
C'est ça. Mais vous dites que la loi doit être...
Laissez faire.
Vous dites que la loi doit être révisée, mais de toute façon, avec ce que vous apportez comme élément, il semblerait que, quelle que soit la loi, le système de protection de la jeunesse ne l'applique pas vraiment. Il semble que il y a un peu de laxisme là-dedans. On soit très élastique dans l'application de la loi, là.
C'est plus qu'élastique. On va à l'encontre de ce qui est écrit. Par exemple, là, lorsqu'il s'agit de l'article 2.4.3 de la protection de la jeunesse et ainsi de suite. L'article 4, ben, toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Puis là, on parle de personnes significatives, les grands-parents, la famille élargie, les membres de la famille élargie. Mais moi, j'ai pas vu souvent des personnes, puis Dieu sait que j'ai eu énormément de témoignages de parrains, marraines qui voulaient prendre la charge des enfants.
C'est ça.
Et qui se sont butés à une fin de non recevoir. Alors, on leur disait, vous n'avez rien à voir là-dedans, c'est le père, la mère et l'enfant. La famille nucléaire. Alors,
c'est très fréquent.
On se fout de la famille, mais même on défend la famille de communiquer, alors que dans la loi, on dit qu'on ne peut pas empêcher les communications.
Ouais.
Alors c'est tellement contredit. Puis si vous demandiez à la population de vous apporter des témoignages, vous en auriez en centaines et en milliers de personnes qui ont été abusées de cette façon-là. Leurs droits ont été reniés.
Oui. Et les parents se sentent bien démunis hein, dans ces situations-là.
Bien démunis parce que tout le monde croit, en général, que la protection de la jeunesse est là pour vraiment prendre l'intérêt de l'enfant et de s'occuper de son bien-être et tout. Ouais. Alors, puis les gens, lorsqu'ils n'ont jamais entendu parler et qui ont affaire face à des implications de la DPJ, que la DPJ ouvre un dossier, alors ils sont tellement affolés, ils ne comprennent plus rien, parce qu'il y avait la conviction que la DPJ était pour le soutien des familles.
Absolument.
Et les communications aussi qui seraient non interdites. Alors,
le réveil est brutal.
Je vous le dis. Et c'est comme s'il descendait d'une autre planète. C'est ouais. aussi simple que ça. Les Québécois n'en sont pas au courant de ce qui se passe dans cet organisme-là. Non. Absolument pas. Parce que les choses sont gardées très, très confidentielles. Alors, on se cache derrière les murs de la confidentialité.
C'est ça.
Pour agir, aller à l'encontre des droits des familles et des enfants. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je ne vais pas être convaincue. J'ai entendu suffisamment de témoignages pour aujourd'hui l'affirmer.
C'est ça. Vous avez suffisamment vu objectivement et entendu objectivement.
Exactement.
De cas, là. Et les parents sont vraiment affolés là, quand ça arrive. Je dis parents, on peut parler grands-parents aussi, hein?
Les grands-parents, c'est la même chose. Moi, dans 40% ou 50% des cas de grands-parents, les grands-parents s'étaient occupés des petits-enfants depuis leur naissance. Alors, parfois, la DPJ leur enlevait alors de 3 ans, 5 ans ou 6 ans. Alors, les grands-parents, l'enfant avait un lien étroit Absolument, avec les grands-parents. Alors, on a fait une nouvelle victime parce que cet enfant-là avait déjà perdu ses parents qui ne s'occupaient pas de lui. Mmh. Et les grands-parents ont pris l'enfant en charge. Et on a fait une seconde fois un orphelin. Alors, imaginez-vous le traumatisme causé à l'enfant.
Mmh. Alors, on peut voir sur ce cas très spécifique Alexia.
Alexia, oui, dans le cas
c'est
de,
ça, que,
le journal, oui.
Que le problème ne relève pas seulement de DPJ, mais de réflexe quasi pavlovien de tout le ministère de la Santé et des Services sociaux, mm-hmm. pour qui la seule solution d'aide à Alexia est la placer dans une famille c'est d'accueil. Alors, on voit...
Une espèce de pensée magique, hein? On va pas mettre l'enfant en famille d'accueil, puis tout le problème va être réglé.
C'est ça, oui. Alors, le système ne fonctionne pour lui-même. Mmh. Il se fout de l'enfant, de ses besoins, il se fout encore davantage des parents. Il méprise des parents, il méprise la famille.
La famille d'accueil a plus d'importance, hein, dans ce qu'on a vu dans l'article.
Quelques beaux textes dans les articles de la loi, mais je suis pas d'accord, Mme Bouchard, avec vous, que la loi... n'est pas respectée parce que à la base de la loi, cette prétention que l'État peut remplacer les parents et les grands-parents ou la famille en tant que telle est complètement et totalement erronée. D'ailleurs, ouais. ce fait...
Ça serait une attente de la population, quand même.
J'aimerais recommander à nos auditeurs la lecture de livre de Christopher Lash, La culture du narcissisme, c'est la première fois que c'était publié en anglais, évidemment. C'était un Américain
en
1979. Alors, c'était exactement à l'année quand la loi sur la protection de la jeunesse était entrée en vigueur. Mm-hmm. Alors, il dénonce le paternalisme de l'État, qui remplace le paternalisme de père dans la famille, qui mm-hmm. a évacué le père de la famille complètement. Il dénonce aussi que c'était déjà en 1889, en Pennsylvanie, ou je ne sais plus exactement, soi-disant tribunaux pour la jeunesse,
oui.
qui doivent regarder spécifiquement les problèmes des jeunes, violent les droits fondamentaux de la famille et des jeunes. Que les intervenants, ça date depuis très longtemps, et c'est spécifiquement nord-américain.
C'est ça, parce que vous avez un exemple américain, là.
C'est ça. Ça s'étend aujourd'hui presque partout en Europe aussi. L'Union européenne en fait sa foi, et cette politique qui détruit la famille, qui détruit les liens, dénoncée par Christopher Lash dans son magnifique, vraiment...
Dans son ouvrage.
Un ouvrage de grande référence. Mm-hmm. C'est ça le problème de la société actuelle. On a besoin de renouveau, on court après les nouveautés et on oublie complètement qu'on a des racines, on est des êtres humains qui nous avons besoin de bâtir notre identité.
Absolument.
Nous avons besoin de connaître et d'être fiers de nos ancêtres, etc.
De nos racines.
Aujourd'hui, on dénonce tout ce qui a une journée de retard. On se moque de ça. Alors, dans cet état de choses, dans cet état de notre société narcissique, dans le sens de Christopher Lash, le narcissisme est synonyme de solipsisme. C'est-à-dire...
Est-ce que vous pouvez expliquer
aux auditeurs? Solipsisme, c'est moi-même, tout seul. Mm-hmm. Alors, c'est la coupure totale de l'être humain de la société.
C'est ça.
On vit dans une bulle. Le reste, ce n'est que de mirage. C'est des objets qu'on peut... dont on peut disposer à sa guise.
C'est ça. Un individualisme est
c'est ça. Autrement dit, individualisme à l'outrance.
Absolument. Écoutez, je vais vous proposer une petite pause, chers amis, et puis on se revoit de l'autre côté de la pause pour la suite de notre émission portant sur la famille d'accueil, solution à tous les maux. À plus tard. Alors, chers auditeurs, nous sommes de retour avec notre sujet du jour. Le placement en famille d'accueil, la solution à tous les maux. En 2006, j'écrivais un article pour la CFDPJ et déjà, je remarquais évidemment la tendance au placement à long terme en famille d'accueil plutôt que d'aider les familles naturelles à garder leurs enfants. Je vous lis un petit peu ce que certains jalons de cet article-là. Entre autres, je notais certains agents de la DPJ semblent incapables de proposer des plans d'action adaptés, le moindrement élaborés ou efficaces pour aider les parents demandeurs d'aide. La déportation familiale que j'appelais à l'époque semble être le remède à tout. Et j'ajoutais, en effet, le placement à long terme semble la seule solution envisageable pour faire face à toutes les problématiques. Et alors qu'il est parfois plus qu'évident que cela détruit des enfants, des adolescents, leurs parents ou leurs grands-parents et amène d'autres problématiques, les intervenants préfèrent fermer les yeux et s'entêter à poser des gestes répréhensibles pour ne pas perdre la face, quitte apparemment à menacer ou manipuler ou à affirmer en cours des demi-vérités, des faussetés ou à effectuer des affirmations non fondées pour garder le contrôle et arriver à leur fin. On pourra même couvrir de mauvaises familles d'accueil si nécessaire. Déjà, en 2006, c'était très évident et ça faisait déjà plusieurs années que ça fonctionnait ainsi. Yann, comment réagissez-vous face à cela? Êtes-vous en accord avec ces affirmations?
Absolument. Le souvenir de nos auditeurs est assez bon, suffisamment bon, au début des années 2000, il y avait une vague de contestation, n'est-ce pas? Mm-hmm. Historiquement parlant. Vous aviez eu la possibilité de visionner même dans les salles de cinéma le documentaire de Paul Arcand, Les voleurs d'enfance.
Oui.
Il y avait d'autres documentaires comme Les enfants de la DPJ,
Absolument.
Les parents de la DPJ, etc. Alors, la dénonciation était vraiment assez... La gronde était profonde et étendue. C'est pourquoi le gouvernement du Québec, qui a proposé de changer des choses, on parle de gouvernement libéral depuis 2003.
Oui. Oui, effectivement. Suivi d'un gouvernement péquiste. Mais
en 2003 jusqu'à 2005, il y avait un prétendu travail fait pour correction apportée à la loi sur la protection de la jeunesse. Projet de loi 125. Alors, on espérait que les iniquités les plus flagrantes seront rayées et abrogées éventuellement, mais c'est le contraire qui s'est passé. Et cette loi, en réalité, nous a posé le bâillon, nous a fermé la possibilité de dénoncer publiquement. Les journalistes n'osent plus à s'attaquer. Parce que pour toute publication dans les journaux ou rapport public, ça prend encore une autorisation d'un juge. Alors, on ne peut plus rapporter des cas spécifiques, etc. Alors, notre gouvernement a carrément fermé la porte à toute contestation. Alors, voilà notre démocratie, comment ça fonctionne.
C'est triste parce que, je le souviens d'ailleurs dernièrement, dimanche passé, nous avions l'Assemblée générale annuelle de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, et je soulignais d'ailleurs ce fait-là, que la population, malheureusement, ne peut plus, apparemment, comme cela, compter sur ses élus, sur son gouvernement, sur ses députés pour se protéger. Tous ont peur, personne n'ose toucher au système de la DPJ. C'est vraiment dramatique. dramatique. La population est vraiment laissée elle-même. Un individu victime d'abus de pouvoir a un sérieux problème là, pour trouver de l'aide. Hein.
Ils sont complètement abandonnés par la société, complètement abandonnés par nos autorités. Nos autorités se moquent carrément des droits fondamentaux des enfants et de la famille. Au contraire, ils font tout pour les détruire.
Madame Bouchard, vous êtes toujours avec nous?
Oui.
Oui. Quelles sont vos réactions face aux affirmations que je faisais à l'époque pour la CFDPJ?
Mes réactions, là, pour continuer dans ce que M. Stoll dit, l'article 11.2.1 de la protection de la jeunesse, on a ajouté ça. Alors, pour contrer, justement, les personnes qui voulaient raconter ou dénoncer les abus, on a baïonné carrément. Puis, si vous voulez écrire, il n'y a aucun journaliste qui va écrire, va s'occuper de ça. Ils veulent pas s'en occuper parce qu'ils savent qu'ils pourraient être poursuivis. Donc, la loi. Puis ensuite, le juge qui aurait fait un jugement, un mauvais jugement dans une cause, ne pourra jamais être sanctionné, il ne peut pas avoir de suite à ça, parce qu'il faut qu'il donne sa permission pour que aux personnes pour qu'il y ait une révélation. Alors, imaginez-vous, c'est une chose absolument impossible, tout le monde le sait. Moi, je pense que l'État a délégué ses pouvoirs à un organisme, soit le directeur de la protection de la jeunesse,
oui.
Mais lui, il est délègue à des agents. Alors, imaginez-vous la pyramide, là. Qui est-ce que l'État n'est pas s'occupe de rien? Alors, les autres font le travail de la façon qu'ils veulent. Alors, en retirant les enfants le plus possible, parce que faut nourrir son budget.
Et avec une compétence plus ou moins douteuse.
C'est important. Puis qu'il y a 5000 enfants qui partent, qui atteignent l'âge de 18 ans. Alors, il faut les remplacer. Sinon, le budget ne sera pas à la rencontre. Il ne sera plus là. Le même budget ne sera plus reconduit. Alors, moi, je pense, en tout cas, on a un éléphant.
Oui, il y a une question de gros sous, hein, aussi, question d'argent.
C'est exactement ça, le budget. Alors, on se bat, c'est-à-dire que l'enfant est échangé au prix d'argent. En fait, quand vous retirez un enfant, vous n'avez plus de budget. Alors, je pense que c'est scandaleux.
Oui, je me souviens au début, lorsque personnellement j'ai commencé à m'impliquer au niveau de la CFDPJ, je me souviens, on se demandait, on se questionnait réellement. On voyait les abus de pouvoir, on voyait vraiment les défauts épouvantables du système. Et on se demandait, puis on voyait même des fois, évidemment, c'était intentionnel. Alors on se disait, mais voyons, quel est le but, quel est l'objectif, ça rapporte quoi? Il y a des DPJ de faire ça.
Exactement.
Et finalement, la seule réponse auquel on en est arrivé, c'est de dire c'est un système qui s'auto-nourrit. Question d'argent. Alors, chaque fois que j'ouvre un dossier, j'ai des sous. Chaque fois que j'amène quelqu'un en cours, j'ai des sous. À chaque fois que j'ouvre une famille d'accueil, j'ai des sous, et ainsi de suite. Hein. Et c'est ça qui est épouvantable. On s'organise pour favoriser davantage les familles d'accueil que la famille naturelle. Ne croyez-vous pas?
Oui, c'est justement ça. Parce que là, les argents viennent pour l'enfant. Disons que l'enfant, il y a des difficultés élevées. Donc, le budget est plus gros. Mais l'enfant ne reçoit pas nécessairement l'aide qu'il doit avoir, par exemple, s'il a des difficultés scolaires ou même des problèmes psychologiques. C'est pas rare, les enfants qui sont suivis.
Ah, non.
Mais souvent, on va éviter... Moi, je connais des cas, en tout cas, qui n'ont pas eu les services qu'ils auraient dû avoir. Je connais des cas, plusieurs cas. Alors que l'argent qui était dans une catégorie élevée pour l'aide, puis l'enfant ne l'a pas reçu. Alors, c'est selon le bon goût, le bon vouloir de la DPJ. Ouais. Je ne dis pas qu'ils ne donnent pas de service. Ça, je ne dirai jamais ça. Mais est-ce que l'enfant a vraiment le service dont il a droit à l'intérieur de ce système-là?
C'est évident qu'on peut se poser la question. Même dans certains cas, placer un enfant en famille d'accueil, si il n'y avait pas nécessairement un problème avec l'enfant, on peut en créer un définitivement. Je me souviens de plusieurs cas où on a créé des TDAH où on a accentué cette problématique-là, si je peux dire. C'est-à-dire que on s'est retrouvé avec des enfants vraiment devenus très hyperactifs, mais en réaction à ce qu'ils vivaient, éloignés de leurs parents. C'était vraiment un mécanisme de défense de son organisme. On pouvait vraiment voir le jeune réagir, puis on avait beau augmenter les doses de Ritalin, puis rajouter du Valium, ce qui était épouvantable. On réglait pas le problème. On voit bien que c'était la situation d'avoir été retiré de sa famille, être éloigné de ses parents, se retrouver en famille d'accueil dans un milieu inconnu, qui provoquait ce mécanisme de défense, non?
Alors, évidemment, cet affolement qui dure depuis plusieurs décennies au Québec, la première loi depuis 64 jusqu'à 79, qui a donné une autorité absolue au juge, l'enfant n'avait pas le droit d'être représenté par un avocat et de porter appel à de jugement rendu. Alors, le jugement était final, une fois pour toutes. En 79, on a mis en place une nouvelle loi adoptée en 77 par Parti québécois. Mm-hmm. Cette loi qui, malgré les prétentions que l'enfant n'est plus objet mais sujet de droit, c'est complètement faux parce que on ne faisait que dissimuler les crimes de l'État commis dans le passé. La nouvelle loi a été adoptée suite au mauvais traitement, un scandale éclaté en 75, suivi de commission Bacho, des rapports de commission Bacho, etc. D'accord. On a fait une enquête, mais on n'a jamais condamner les fautifs, les coupables, les criminels qui ont torturé les enfants ou les mineurs. On n'a jamais dédommagé les victimes de cette politique. Et on court depuis vers l'avant. Et c'est très bien, on peut très bien voir ça en 2005, le projet de loi 125 entré en vigueur en 2006. En 2010, la Cour suprême du Canada, 10 jours avant l'entrée en vigueur de la loi sur les crimes contre l'humanité, autorise, sans aucune compétence possible, parce qu'aucun cour n'a pas la capacité ni compétence d'abolir les garanties juridiques de la Charte, à un groupe de personnes a carrément, singulièrement, aboli les garanties juridiques, c'est-à-dire les droits fondamentaux aux enfants et aux parents dans le contexte de protection de la jeunesse.
Sous prétexte de les protéger.
C'est ça. Alors, on voit, encore une fois, que les crimes commis par l'État à l'encontre des enfants et de leurs parents ou de leur famille immédiate s'accumulent tellement que l'État n'a plus le choix que de financer la dissimulation de ces crimes du passé. Mmh. Alors, c'est une fuite vers l'avant, tout simplement. Mmh. Ceux qui ont une certaine dose de conscience, une certaine intégrité, et qui, par malheur, embarquent dans ce système, sont forcés de débarquer très rapidement. Mmh. Il y a une grosse circulation des effectifs au ministère de la Santé et des Services sociaux.
Oui, 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 oui.
On le sait très bien. Et finalement, le dernier constat, c'est que DPJ n'utilise pas vraiment les services des travailleurs sociaux formés en bonne et due forme par notre système d'éducation, qui a déjà, à qui on peut déjà reprocher beaucoup de choses, mais quand même, c'est de loin, la qualité de ces gens est de loin meilleure que les travailleurs formés par directeurs de la protection de la jeunesse.
D'ailleurs, quand c'est possible, au plan d'intervention, au plan terrain, lorsqu'on peut éviter donc de faire affaire avec la DPJ, si on considère que la seule solution, c'est le placement en famille d'accueil, il existe des quand même certains organismes, on peut en découvrir, qui peuvent donner un coup de main aux familles. Entre autres, je discutais hier avec la coordonnatrice d'un organisme qui s'appelle le Petit Patro à Sainte-Thérèse et qui vise à permettre aux parents ayant des difficultés avec des jeunes de 12 à 17 ans de évidemment, on parle pas de jeunes enfants, mais on parle de jeunes adolescents, mais quand même, de pouvoir les aider, les supporter là-dedans. Ils ont développé un système de conciliation là, parents-ados là, sur plusieurs semaines, où il y a des rencontres qui sont faites avec les parents et les adolescents. Le parent peut même, pour une période de 6 semaines, laisser son jeune en hébergement, histoire de laisser des fois la poussière retomber, sans qu'il soit dans les pattes de la DPJ. Or, il existe quand même des choses, et éventuellement, d'ailleurs, je compte bien, si ils sont disponibles, peut-être inviter à cette émission un responsable, peut-être du Petit Patro ou d'un autre organisme de ce type, à venir nous parler de leur service. Ce qui pourrait être très intéressant. Madame Bouchard, auriez-vous quelque chose à rajouter là-dessus?
Bien, moi, je suis très en accord, mais où est ma question? Ma question est... le seul organisme gouvernemental qui n'a pas de vérification dans ses bureaux, c'est la DPJ. Mm-hmm. La DPJ n'a jamais la visite du vérificateur général. Est-ce que vous pensez...
C'est bizarre, hein?
Nos argents qui vont là, puis avec les plaintes qu'il y a eu depuis des années, que le gouvernement n'a jamais bougé pour aller faire enquête. Alors, écoutez, il y a quelque chose là qui m'échappe.
Ouais. Puis, on peut s'interroger à savoir s'il y a collusion.
Mais ça confirme mes prétentions que le gouvernement ne fait qu'une fuite vers l'avant devant ses responsabilités énormes, énormes. En 2004, lors du 25e anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi sur la protection de la jeunesse, dans le bilan des centres jeunesse de l'Association des centres jeunesse du Québec, on jubile au-delà d'un million d'enfants ont bénéficié de la présente loi. Okay? Mm-hmm. Imaginez, au-delà d'un million d'enfants, si on pouvait trouver une autorité qui confirmerait nos prétentions qu'effectivement, en enlevant l'enfant arbitrairement, on le prive de sa liberté physique en violation flagrante des dispositions fondamentales du droit international, ce qui constitue un crime contre l'humanité, c'est-à-dire... des actes commis dans la poursuite ou l'application d'une politique de l'État ou d'un organisme de l'État, évidemment, c'est-à-dire dans la politique de la protection de la jeunesse. La loi et ses dispositifs d'exception qui autorisent les DPJ dans les enlever l'enfant de force sans aucune autorisation de juge, ça suffit que le directeur général des centres jeunesse, des prisons pour les enfants, pour les jeunes, écrive une autorisation et l'enfant est privé de sa liberté. Alors, tout ça, ça se passe en violation flagrante des dispositions fondamentales du droit international. Okay? Alors, imaginez, au-delà d'un million en 2004, on est rendu en 2015. Aujourd'hui, 11 ans plus tard.
C'est du monde.
Alors, on peut parler d'un million et demi minimum. Ou plus. Alors, sous un droit international, il est reconnu que les victimes d'un crime contre l'humanité ont le droit à un dédommagement de 30 000 $. Mm-hmm. Alors, imaginez où Québec se situerait s'il devait effectivement dédommager. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des enfants, il s'agit aussi, les victimes sont aussi des parents, des grands-parents. Mm-hmm. Alors, il faut multiplier ça par au moins deux.
Ça coûterait une petite fortune.
Alors voilà. Ouais. Voilà où le problème se situe. Mmh. Aucune responsable de gouvernement ne va embarquer dans cette boîte de Pandore carrément. Ouais.
Et risquer de se retrouver enlisé dans des poursuites. Là.
Voilà. Ah ouais. Regardez, M. Paul Martin, avec son autorisation de l'enquête sur la corruption au niveau de propagande. C'était...
La commission, pas la commission, pas la commission Gomery?
Gomery, c'est ça.
C'est ça.
C'est ça. Ça l'a coûté politiquement très cher, M. Paul Martin.
Ouais,
c'était
ouais.
La fin de sa vie politique, mm-hmm. finalement. Et, au lieu de lui remercier d'avoir le courage d'ouvrir cette boîte de pourriture qui était enfermée, mm-hmm. et soigneusement dissimulée. Et on l'a carrément foutu dehors de toute considération politique. Mais alors, imaginez qui aura le courage, impossible de voir une telle personne. Mais
oui, en terminant, j'aimerais peut-être vous lire un petit éditorial préparé par Mme Claudette de Blois, coordonnatrice de la CFDPJ, à l'intention de toute personne étant aux prises actuellement avec des problèmes concernant la DPJ, qui se sent seul, démuni et je vous dirais sans armes comme tel. Juste souligner avant ce petit éditorial-là, que Bernard Favreau, que nous avions eu en termes on parlait d'intervention tout à l'heure, Bernard Favreau, que nous avions eu il y a quelque temps à notre émission, soulignait que, tu sais, on n'est pas obligé d'envoyer des autant d'enfants en famille d'accueil, hein, lui aussi le soulignait. Il dit, de 5 à 8 enfants sur 10, tu n'aurais pas besoin d'être envoyé en famille d'accueil si on donnait l'aide adéquate aux parents. Absolument. Pour intervenir et devenir plus compétent pour faire face aux difficultés. Mais je reviens à ce petit éditorial-là. Donc, je vous lis ce que Mme de Blois donne à la fois comme, je dirais, comme encouragement et information aux personnes victimes d'abus de pouvoir. Et son éditorial s'intitule « Les grands-mères de la place de Mai ». Alors, elle dit « Cette semaine, au Canal D, j'ai revu le documentaire « Les grands-mères de la place de Mai ». Je sais que l'histoire peut sembler très différente de la nôtre, bien qu'elle soit assez semblable dans le fond. Mais le courage de ces femmes, déjà quelque peu vieillies, fut exemplaire. Et c'est cet exemple qui devrait nous profiter. Durant la guerre qu'on appela la guerre sale en Argentine, pendant l'opération Condor, les opposants politiques, avec leurs amis et leurs familles, étaient enlevés de force, enfermés et torturés dans des centres de détention clandestins et tués par la suite. 3000 personnes sont ainsi disparues. Ces victimes étaient des étudiants, des syndicalistes, des idéalistes, épris de justice sociale. Ils étaient jeunes pour la plupart, au début de la vingtaine, et plusieurs avaient de très jeunes enfants. Plus de 500 bébés ou jeunes enfants ont disparu. Ils n'ont pas été tués. Donc, ils n'ont pas tué les jeunes enfants. Mais on a voulu leur donner un futur ou simplement les soulager leur conscience. Donc, les kidnappeurs ont voulu possiblement soulager leur conscience. Ils ont fait adopter ces enfants et souvent par ceux-là même qui avaient tué leurs parents. Alors, les grands-mères de ces bébés ont fondé en 1977 une ONG dans le but de retrouver les enfants volés par la dictature militaire et de les rendre à leurs parents légitimes. Pour certains, il restait au moins un parent qui n'avait pas été pris. Elles n'ont jamais répondu à la violence par la violence. Elles ont défilé tous les jeudis sur la place en face de la présidence de la République à Buenos Aires pour dire qu'elles se rappelaient de l'injustice et qu'elles attendaient réparation. Elles portaient un foulard blanc pour représenter les langes des bébés disparus. Au début, on les appelait les folles de la place de Mai. Mais bien vite, on se mit à les respecter et on les a appelées les grands-mères de la place de Mai. Tranquillement, d'autres grands-mères et d'autres personnes se sont unies à elles. Les grands-mères de la place de Mai ont été l'unique organisation de femmes en Argentine activistes des droits de l'homme. Quelques-unes des fondatrices ont été assassinées à leur tour en 1980 par un commando. Elles ont continué à dénoncer l'injustice malgré tout. Elles n'avaient ni armes, ni puissance, ni force extraordinaire, seulement le désir de la justice et le vouloir de trouver et de dire la vérité à leurs petits-enfants, de leur redonner leur identité. Alors, quand l'État leur a dit qu'elles se devaient de circuler et de ne pas rester en arrêt sur la place, elles se sont mises à tourner sans cesse en rond autour de la place sans s'arrêter. C'est leur persévérance qui leur a fait gagner la victoire. Par leur travail aussi, leur recherche, elles ont retrouvé au moins 100 de ces enfants et plus. Elles ont réussi à faire condamner plusieurs des personnes impliquées dans cette injustice. En 1980, la présidente de l'association Estella Barnes a reçu le prix des droits de l'homme de l'ONU. À 5 reprises, elles seront mises en candidature pour le prix Nobel de la paix. Ainsi, sans violence, sans peur et sans presque bruit, du moins au début, juste par leur persévérance à dénoncer les injustices, elles ont vécu. Parfois, on ne peut pas faire grand-chose, mais tant qu'il y aura des personnes pour dénoncer les abus et les injustices, tant qu'il y aura des dénonciateurs sans peur et sans violence qui diront « On se rappelle qu'il y a une injustice et on ne veut pas l'oublier, il y aura de l'espoir pour la cause. Nous pouvons tous dénoncer sans arrêt, brandir d'une certaine façon notre foulard blanc, dénoncer et persévérer, ce qui a été bon pour ses grands-mères est sûrement bon pour nous aussi. Elles ont continué jusqu'à ce que quelque chose arrive et que la vérité finisse par éclater. Si nous continuons à dénoncer, il devra bien arriver quelque chose. » Merci, Mme de Blois, pour cet éditorial.
Or, Mme de Blois est la coordonnatrice qui a quelques difficultés de santé. Absolument. Alors, elle est absente depuis quelques mois de nos émissions.
Parfait. Eh bien, chers auditeurs, cette émission tire déjà sa fin. C'est tout le temps dont nous disposions. Espérons que notre sujet aurait pu vous plaire. Nous vous donnons rendez-vous en mai, le dernier vendredi, pour d'autres sujets d'intérêt. Entre autres, nous pourrons découvrir un organisme communautaire d'aide à la famille, le Petit Patro, comme je le disais tout à l'heure. Alors, merci, Mme Bouchard. Merci, M. Stowe.
Merci.
À la prochaine. À
excellent.
Wow.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité.
Econofitness est un réseau de gym de grande qualité à très bas prix. Seulement 120$ par année, 10$ par mois. Aucun frais d'adhésion caché, 8 gyms à Montréal et plus de 20 Econofitness au Québec. Inscrivez-vous dès maintenant sur econofitness.ca.
Vous avez hâte d'intégrer le marché du travail ou vous envisagez une reconversion professionnelle? Le Collège supérieur de Montréal vous propose des formations complètes en seulement quelques mois, comme notre programme combiné secrétariat et comptabilité. Situé au-dessus du métro Berry-UQAM, le CSM est un endroit stimulant pour étudier. Les admissions ont lieu en tout temps. Pour plus de détails, 514-932-1122 ou collegecsm.com. Le Collège supérieur de Montréal, l'école la mieux placée pour vous placer.
Tu es à la recherche d'un emploi? Eh bien, je t'invite gratuitement à venir au Salon des métiers manufacturiers. Tu y rencontreras des exposants de domaines variés, prêts à te démontrer l'avenir de l'industrie. Le Québec est entre tes mains, à toi de saisir ta chance. On se voit le 5 mai sur la grande place du complexe des Jardins.
Vous avez aimé cette émission? Nous aussi. Réécoutez-la sur radiocentreville.com.
Econofitness est un réseau de gym de grande qualité à très bas prix. Seulement 120$ par année, 10$ par mois. Aucun frais d'adhésion caché, 8 gyms à Montréal et plus de 20 Econofitness au Québec. Inscrivez-vous dès maintenant sur econofitness.ca.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.